Courant d'air,
au-delà des frontières.
Bonjour à tous, comme chaque lundi désormais à 14h, nous allons écouter les récits de globe-trotteurs bretons et recevoir les témoignages de voyageurs du monde entier vivant en Bretagne. Pour ce premier numéro de Courant d'air, nous accueillerons dans quelques instants Sylvie. Elle nous parlera de son voyage dans les pays baltes, puis nous écouterons Gaïa et Fausta, deux napolitaines en études à Rennes. Bonjour Sylvie, vous êtes enseignante-chercheuse à l'université de Rennes 2 et vous travaillez plus particulièrement sur les migrations latino-américaines vers l'Espagne. Vous êtes allée dans les pays baltes, c'est-à-dire en Estonie, en Lettonie ainsi qu'en Lituanie en 2005 grâce à des contacts espérantistes qui vous ont accueillis là-bas. A-t-il été facile pour vous de communiquer en espéranto ?
C'est une langue qui est faite pour qu'on l'apprenne rapidement. C'est absolument faisable. Le mouvement espérantiste est très fort dans tous les anciens territoires de l'URSS. Et je savais donc que je pourrais rencontrer des gens qui parlaient espéranto et que l'anglais ne me servirait que pour des raisons utilitaires, de commander des plats dans les restaurants et de me renseigner dans les agences de tourisme, peut-être avec la jeunesse, mais plus difficilement avec les adultes. Donc la philosophie de l'espéranto, c'est une philosophie internationaliste, pacifiste. Et le créateur de l'espéranto, Zamenhof, il était originaire de cette région-là, puisque actuellement, l'une de ses maisons se trouve en territoire lituanien et j'ai eu l'honneur d'y être hébergé. J'ai vécu dans la maison de Zamenhof. Les espérantistes, ils ne sont pas particulièrement définis en termes sociaux. J'ai rencontré des gens de plusieurs milieux, plusieurs professions. Ma plus belle expérience, c'est d'avoir vécu dans un petit village estonien chez un spirit, c'est-à-dire une personne qui croit à l'au-delà et qui fait tourner les tables. Donc, on avait de longues conversations sur l'au-delà, les revenants, tout ça en espéranto. Et moi, je suis très rationaliste, donc je n'étais pas disposée à tout avaler, mais ce vieux monsieur avait un tel charme que finalement, j'étais ravie de tous ces récits de communication avec l'au-delà. Et naturellement, il communiquait en espéranto avec l'au-delà.
Grâce à l'espéranto, vous avez pu avoir des conversations assez poussées alors avec les autres espérantistes que vous avez eu l'occasion de rencontrer. J'imagine qu'ils vous ont parlé de l'époque du l'URSS.
Oui, ils m'en ont parlé. Donc l'espéranto va peut-être disparaître comme pratique dans les jeunes générations. Mais les générations qui, en 2005, avaient de 60 à 80 ans, que j'ai rencontrées, pour eux, l'espéranto, c'était une façon de voyager. Ils arrivaient à peu près à obtenir des autorisations pour aller à des congrès d'espéranto, dans les pays de l'Est uniquement, très rarement à l'Ouest. Et donc c'était une façon de déjouer un peu le contrôle sur leur vie. Et ça, je le savais parce que j'avais lu. Et donc, puis je suis très, très fascinée par l'histoire de l'Union soviétique. Et dans les pays baltes, le nationalisme et le patriotisme sont très forts. Et donc, c'est comme si on appuyait sur un bouton, les gens racontent l'histoire de leur famille. Au début des années 40, ces trois pays ont été occupés par l'URSS, alors que c'était des républiques indépendantes, et il y a eu des déportations massives. Ils n'ont pas été exterminés. Beaucoup sont revenus, mais ils ont été dans des camps de travail.
Vous avez eu l'occasion de vous promener dans des villages et dans les campagnes, mais ce qui vous a vraiment ébloui, ce sont les villes de Tallinn, Vilnius et Riga.
Alors bien sûr, les trois capitales, d'autant plus on peut se rendre de l'une à l'autre en bus en une demi-journée. Il y a aussi, j'espère que le train existe encore, on peut aller de Lituanie en Lettonie en train plusieurs fois par semaine, s'ils ont gardé le train, ce qui n'est pas sûr. Il y a des petits trains qui traversent des villages de campagne, et les villes sont très très belles. Elles ont commencé à être bien restaurées, certainement il y a eu de l'argent européen, donc les monuments sont très bien mis en valeur. Vilnius par exemple, c'est une ville très élégante, avec aussi de très beaux magasins. On a l'impression qu'en une dizaine d'années, les habitudes de consommation à l'occidental sont arrivées extrêmement vite. Riga, c'est une ville où il y a aussi beaucoup de mémoires de la ville russe. Et c'est une ville balnéaire. Donc il y a aussi quelque chose qui est très romantique pour nous, des vieilles stations balnéaires. Enfin, à l'époque, elles étaient vieilles. Ma crainte, c'est que la modernisation accélérée les fasse disparaître dans l'état où je les ai vues, qui est un état conservé un peu dans le vinaigre.
L'action culturelle était très importante à l'époque de l'URSS. Quelles traces concrètes avez-vous pu observer lors de votre voyage ?
Alors, on voit ça surtout dans la présence de grands musées avec de belles collections d'une peinture qu'on ne connaît pas forcément, qui remonte à plusieurs siècles. Et il y a aussi, ça c'est une tradition soviétique, mais sur laquelle se greffent d'autres courants, une vie musicale très importante, donc des concerts, de l'opéra, du chant choral. Il y a un substrat d'action culturelle soviétique, des bibliothèques, plus les actions culturelles que mènent maintenant les trois États baltes pour revendiquer leurs racines, entretenir leur patrimoine. Là, il y a une rupture dans le contenu, mais pas dans les équipements. Par exemple, le chant choral a été dans les trois pays baltes, c'est quelque chose d'assez étonnant, un outil de revendication culturelle et de rassemblement d'opposition à l'Union soviétique. Donc ça a laissé des mémoires. Tel et tel festival, avec tel et tel nombre de spectateurs chantant tel et tel répertoire. C'est un peu comme une légende. Mais si on fait un tour des magasins de disques, il y a beaucoup d'anthologies qui s'appellent Voix de la Baltique. Et là, on peut écouter ces musiques, ces chœurs, ces compositeurs baltes et ces chansons qui ont été un moment important de libération.
La fin des années 80 marque l'effondrement de l'Empire soviétique. Les sociétés lettonnes, estoniennes et lituaniennes ont, j'imagine, beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années. Bon, ma question va prêter à sourire, mais expliquez-nous concrètement en quoi la liberté est fondamentale là-bas et surtout de quelle liberté parle-t-on ?
Quand on parle à des gens, ça, c'est toujours par rapport à leur vie, à eux. Alors, la liberté de se déplacer. Pour nous qui franchissons les frontières avec une simple carte d'identité ou sans carte d'identité ou sans visa quand on va à l'étranger, on ne peut pas se représenter ce que c'est que l'impossibilité de se déplacer. Surtout trois petits pays qui, en plus, que si vous regardez une carte, étaient à côté de la Suède et de la Finlande. C'est-à-dire, c'est pas comme d'être au cœur de l'Empire soviétique. C'était des Européens qui étaient privés de leur identité d'Européens. Donc, première chose, la liberté de se déplacer, d'aller étudier à l'étranger. Évidemment, la liberté de lire les journaux, de lire la pluralité d'expressions. Et puis, la liberté de revendiquer l'héritage balte, hein, c'est-à-dire de se débarrasser non seulement des Soviétiques, mais des Russes. Hein. Donc il y a tout un modus vivendi qui a été très méritoire et très surveillé par l'Europe, par l'Union européenne, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire des minorités russophones, quel degré de citoyenneté, de loyauté on allait leur demander. Donc ça c'est un sujet assez délicat, mais la liberté c'est essentiellement par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais c'est un effet qui va s'user parce que la jeunesse qui n'aura pas connu l'Union soviétique va peut-être donner un autre sens à la liberté. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de sa liberté si on n'a pas les moyens de l'exercer ? Tout ça va bouger assez vite, mais il est vrai qu'il y a certains moments de révélation quand on parle de liberté. Par exemple, de parler avec une dame qui avait été un petit peu plus âgée que moi, très instruite, et qui m'a dit à quel point ils étaient désespérés, elle en tout cas, que librement les Français puissent voter pour le Parti communiste en France et que ce parti ait eu jusqu'à 25% de voix. Alors j'ai fait mon possible pour lui expliquer, mais elle trouvait ça, de son point de vue, désespérant. Donc on a des petits flashs sur ce que veut dire la liberté pour les gens. Après, il y a aussi des aspects de la liberté qui sont plus désagréables. Par exemple, le fait que Tallinn voyait en tout cas à l'époque régulièrement des hordes de jeunes Anglais éméchés, venir enterrer leur vie de célibataire et vomir dans les rues de la capitale et reprendre l'avion ou le ferry, c'est pas franchement le meilleur côté de la liberté. La liberté d'entreprendre aussi a fait qu'il y a des gens qui ont perdu leur maison parce que les anciens propriétaires sont venus les réclamer. Donc la liberté peut avoir un visage discutable. Enfin, ça peut être aussi une façon de perdre des protections. Tout n'est pas rose. Parce que l'État provisoire soviétique, il n'est plus là non plus. Donc c'est à chacun maintenant de trouver son destin, ses moyens de subsistance. Donc la liberté capitaliste, ça peut être très dur aussi.
Pour terminer, que conseilleriez-vous, Sylvie, aux auditeurs et auditrices s'ils souhaitent voyager prochainement dans des pays européens ?
D'aller passer leurs vacances, au moins 3 semaines, ce n'est pas loin. Il faut regarder les courbes climatiques. On est très au nord de l'Europe, on est presque à Leningrad quand on est à Tallinn, par exemple. Donc il faut éviter, sauf si on veut chercher le froid, il faut éviter le cœur de l'hiver. Et le printemps commence plutôt à la mi-mai. Et il y a beaucoup de formules touristiques, beaucoup de moyens de transport en commun, beaucoup de gîtes, de petits hôtels, de petits restaurants. Et il faut simplement avoir les nerfs bien trempés et accepter que presque toute la journée, on ne va rien comprendre. Ce sont des langues opaques. Vous voyez la une d'un quotidien et la seule chose que vous reconnaissez, par exemple, c'est un nom de ville, New York. Tout le reste est incompréhensible. Donc il faut être là-dessus et philosophe. Mais sinon, c'est parfaitement agréable. Ça peut être aussi des vacances sportives, se promener dans la forêt, se baigner. Et puis, il faut aller voir. Et puis aussi, je voudrais dire une chose frivole à la fin, c'est que les Lettons m'ont paru un peuple d'une beauté extraordinaire. Donc j'ai passé du temps à la gare de Riga à voir passer les beaux jeunes gens, les belles jeunes filles. Ils sont très beaux.
Dans quelques minutes, nous retrouvons Gaia et Fausta, mais écoutons dès à présent un morceau du groupe lituanien Leon Somov and Yatsu, Musikatu.
Pažvelgtum tu į dangų Aš savo muziką paslėpsiu po lietum Kur vaikštai tu Ir kai tūkstančiai draugelių su vasara atskris Ir pats gražiausias glostys tavo plaukus Aš savo muziką paslėpsiu po sparnu Štai tu Muzika, muzika Muzika, muzika tu Muzika, muzika Muzika, muzika tu Kai lapai rudeniniai aukso dulkiam kris Į tavo delnus Aš savo muziką paslėpsiu po lapu Kur vaikštai tu Ir kai laikas nulakuos baltai gatves Likti čia tavo pėdom Aš savo muziką paslėpsiu po sniegu Thank you.
Nous sommes de retour pour la seconde partie de cette émission en compagnie de deux Napolitaines, Gaïa et Fausta. Elles sont étudiantes en langue étrangère et en art du spectacle à Rennes 2 et elles suivent des cours de français au CIREF. C'est le Centre international rennais d'études de français pour étrangers. Je conseille au passage pour les auditeurs curieux et désireux de rencontrer des étrangers qu'ils peuvent très bien aller faire un tour à la cafette du CIREF. Elle se trouve au 4e étage du bâtiment E et c'est l'idéal pour pratiquer les langues étrangères. On peut parler avec des gens du monde entier autour d'un petit café. Fausta, Gaïa, vous êtes à Rennes depuis septembre dernier. Est-ce que vous vous plaisez ici?
Oui, parce que c'est un ville très, très tranquille avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étrangers. Donc pour nous qui sommes Erasmus, c'est vraiment facile à se rapporter avec des personnes de tout le monde. Et aussi c'est une ville très culturelle, j'ai vu beaucoup de festivals de la culture, de musique, de théâtre, n'importe quoi.
Je confirme ce que a dit Fausta, c'est facile à bouger, il y a les transports, ça marche bien. Tu peux sortir toute seule et tu rencontres toujours des personnes. C'est comme un petit musée à ciel ouvert.
Une des idées reçues sur les Italiens est qu'ils parlent pas mal et assez fort, un peu comme les Espagnols, mais qu'ils sont peut-être aussi plus sociables que leurs voisins du Nord. Qu'est-ce que vous en pensez?
On peut dire que les Français, les Bretons, je ne sais pas si les Français en général, parce que j'ai vu seulement en Bretagne et Paris, surtout pour le point de vue de la socialisation, ils sont un peu plus froids que nous. Nous avons un peu des problèmes dans le domaine de l'université parce que les Français sont... Ils ne sont pas ouverts entre eux et surtout avec nous. Quand nous sommes arrivés ici, le premier semestre a été vraiment un peu bizarre dans l'université.
En fait, il y a les clichés chez nous que les Français sont froids. Mais je trouve que les Français qui sont beaucoup plus ouverts sont ceux qui ont fait un peu d'expérience à l'étranger. Et donc, n'ont pas peur de s'ouvrir, de montrer, de partager des expériences qui peuvent être aussi communes.
Je voudrais dire une autre chose, c'est que en fait ici les personnes sont très gentilles, surtout si tu vas, je sais pas, dans un boutique, un magasin, si tu rentres, toujours on dit bonjour, bonsoir, ils sont très disponibles. Chez nous c'est un peu différent parce que beaucoup de fois tu rentres, tu dis bonjour, personne te répond et ils sont aussi pas vraiment gentil.
Naples est aussi malheureusement connue pour la présence de la Camorra, la mafia napolitaine. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous savez de cette organisation?
Alors, on la voit jamais, on l'entend jamais, on la connaît vraiment jamais. Mais ça se passe plutôt comme on se voit dans les films. Il y a une grande famille où il y a le boss. Mais le petit boss qui est à côté du boss, c'est toujours le fils du boss. Après, il y a les tueurs, parce qu'on doit, dans quelque façon, maintenir le contrôle sur le territoire. Et après, il y a des petits boss, mais vraiment petits, ça compte pas beaucoup, qui on appelle i guapi di quartiere. Ça veut dire de petits boss du quartier. Qui contrôle la situation dans un quartier. Il cherche de garder la tranquillité du quartier. Ils vont contrôler surtout les trafics de la drogue ou de la prostitution, s'il veut avoir de la drogue ou avoir de la prostitution. Et en général, on le connaît. Il n'est pas beaucoup instruit, parce qu'en général, les petits boss, ce sont des personnes qui vivaient dans une situation de pauvreté. Et donc, qui, pour sortir, se sont liés à la Camorra et qui, selon cette personne, ces personnes donnent des solutions faciles pour vivre et gagner beaucoup d'argent. Mais en général, on ne voit pas la Camorra, c'est plutôt un cliché. Il n'y a pas vraiment de Camorra partout à Naples. Il y a des quartiers qu'on doit éviter, mais en général, il y a aussi la certitude que si tu es un étudiant étranger et tu viens étudier à Naples, tu portes de l'argent et tu n'es presque jamais touché, surtout dans la Camorra. Ça peut passer que tu as volé, mais ça ne fait pas partie de la Camorra. Ce sont des petits groupes de baby gang ou quelque chose comme ça qui peut te voler. Mais après, il n'y a pas vraiment de Camorra que tu vois, sauf dans quelques quartiers un peu particuliers.
Le problème chez nous, c'est que le sud de l'Italie, surtout Naples, est toujours condamné par l'Italie entière. Donc, nous sommes seuls. C'est pour ça que beaucoup de fois, les personnes doivent aller chez la Camorra pour avoir de l'argent parce qu'il n'y a pas vraiment un travail chez nous. En Italie en général, mais chez nous, la situation, c'est vraiment pire. C'est pour ça que nous avons cette situation. Mais je voudrais dire aussi que la Camorra, en Italie, c'est partout, surtout dans le domaine politique, surtout au nord de l'Italie.
Fausta, tu nourris un sentiment plutôt contradictoire vis-à-vis de ton pays, qui est l'Italie. Pourquoi ?
Je l'aime parce que c'est mon pays et parce que c'est vraiment un pays très, très joli, avec beaucoup de cultures et tout ça. Mais je la déteste parce qu'elle n'est pas capable de faire de la fortune avec ça, avec la culture, avec quel que nous avons. Et c'est pour ça que je la déteste. Je déteste le fait que moi, je suis un étudiant d'art, de l'art général, donc musique, théâtre, histoire de l'art. Mais je ne peux pas mettre à disposition de mon pays ma culture, parce que le pays ne me permet pas de faire ça.
C'est vrai, en fait, on peut le voir aussi à l'étranger. Même au Louvre, il y a toute une salle d'exposition italienne, et même au National Gallery, au Musée des Beaux-Arts à Rennes. Maintenant, il y a toute une exposition italienne sur Canova et Veronese et tout ça. Mais en Italie, on ne sommes pas vraiment capables de sauvegarder la culture, ou quand même ne donnent pas trop d'importance, surtout dans cette période de crise. C'est pire parce que c'est notre force.
Fausta, tu connais bien la musique napolitaine. Peux-tu nous chanter quelque chose ?
C'est une chanson classique de Naples. Elle s'appelle Era de Maggio. C'est un napolitain un peu ancien. Ce n'est pas le napolitain qu'on parle maintenant. Era de maggio e te cadea nanzina, a schiocca lì c'erasero, fresca era l'aria e tutto lo giardino adorava de rosa accendo bas. Era de maggio e non me ne scorda, una canzone cantavamo a due voci. Che il tempo passa e che me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone. C'è una chanson d'amour qui parle d'un homme qui dit à sa femme: je dois partir, mais je rentre chez toi en printemps, d'accord? Donc en mai. C'est ça le sens. Elle parle un peu de comment ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et après, on a chanté ces chansons d'amour très classiques.
Torna raggio, quando tornano le rose. Si stucciora, torna maggio, pura magistong. Si stucciora, torna maggio, pura magistong.
Tu disais, Gaïa, que les transports à Rennes sont relativement bien organisés, on a un bon réseau, ils sont à l'heure la plupart du temps. Comment ça se passe pour Naples ?
C'est pas du tout pareil. Il y a toujours des bus très vieux, toujours pleins, et même le machine pour valider, ils sont presque toujours cassés. Les transports se sont presque jamais à l'heure. Surtout ceux qui vont de la Provence jusqu'au centre. Si tu es étudiant, tu ne bouges pas trop dehors du centre. Sauf s'il y a des soirées organisées, comme des concerts, quelque chose de culturel. Ou elle organise aussi des bus qui ne coûtent pas trop cher pour aller jusqu'à la salle des concerts, des choses comme ça.
Pour ne pas rencontrer tous les touristes, mais voir quand même des choses très sympas, on va où ?
Oui, il y a beaucoup des choses à voir à Naples. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, il y a un restaurant dans un quartier très ancien et typique de Naples, qui s'appelle Quartier Spagnoli, que c'est un quartier qui a été construit par les Espagnols, et c'est trop ancien. Et j'ai un restaurant qui s'appelle Nennella, qui c'est un mot napolitain pour dire la petite fille. Et la chose typique de ces restaurants, c'est la cuisine typique de Naples. Donc, C'est merveilleux. Et aussi, il n'est pas trop cher. Mais la chose plus typique, c'est que pendant toute la durée de le déjeuner ou de le dîner, les personnes qui travaillent là te disent des grands mots. Donc, tu peux dire, oh, je dois prendre ça, ces plates-là, de la mozzarella, et puis te dire des choses vraiment pas trop jolies. Mais c'est trop sympa parce qu'à la fin de tout, on porte de la fruit dans un bidet. Mais tu dois savoir ça parce que si tu vas là-bas, tu sais rien, peut-être que tu t'énerves un peu.
Mais en fait, les grands mots, ce ne sont pas les grands mots italiens, ce sont des grands mots napolitains anciens. Oui, c'est un peu vulgaire, mais tu peux comprendre la culture, je ne sais pas, de ta grand-mère, peut-être. Et on doit comprendre quand même que c'est un napolitain, pas un italien. C'est toute autre chose. Et après, au niveau culturel, il y a la Piazza del Plebiscito. C'est une des places la plus centrale de Naples. Et elle est très grande. Il y a une église de la forme d'un temple. Et dans la place, il y a deux chevaux devant de l'église. Il y a une légende qui est vraie, de toute façon, qui dit que si tu te places presque parfaitement au centre des deux chevaux, tu vas fermer tes yeux et tu commences à marcher tout droit, tu ne passeras jamais entre les deux chevaux. On dit en général que ça dépend de la structure et de l'architecture de la place, que c'est un peu circulaire, que c'est un peu incurvé vers les centres.
Vous avez vérifié ?
Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi une autre chose typique, c'est une autre place très connue à Naples qui s'appelle Piazza del Gesù. Et au centre de sa place, il y a un statue d'un ange qui est très particulier parce que si tu te mets en position très particulière, que c'est un peu difficile à expliquer maintenant, mais il faut voir. Tu peux voir qu'au derrière de cet ange, il y a un autre statue que c'est la mort. C'est une période dans laquelle à Naples, on a fait beaucoup de statues, beaucoup de choses dédiées à les anges, à Gesù, à la religion en général. Et donc, pour faire une petite révolution, le sculpteur a fait sa chose au derrière de la statue. Mais c'est vraiment particulier parce que normalement, tu vois seulement un ange. Si tu te mets dans cette position particulière, tu peux voir aussi l'autre côté.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à DJ Bril qui a eu la gentillesse de faire la musique de l'émission, ainsi qu'à nos invités et puis à Claude pour son soutien à la réalisation de l'émission. Rendez-vous lundi prochain à 14h pour d'autres témoignages de voyageurs. On se quitte avec Faccia Gialla, un morceau qui rapporte le miracle de Saint-Janvier à Naples. Si une vite brau tortudo, ben argenta.
A ta segui sta trasmissione perché è troppa bella.
Mezza alla torre da soffata, coppa una brate sotto una spada, orma pezzone sono a rubare, la coppa montagna fino a mare. Sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha. Sottane di te l'imperatore, catacomba e persecuzione, tu nobile vescovo e benevento, non filerebbe contro vinto. Sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha, sangue non ne ha. Faccia gialla, squaglia, falla sto miracolo. Faccia gialla, squaglia, falla questo uomo. Faccia gialla, squaglia, falla sto miracolo. Faccia gialla, squaglia. Fala questo popolo. Che la voce avrete manere, 60.000.
por te guler, belle bonne turque nazer, bona da voz de fame seide. E sangue no neaco, e sangue no neaco, e sangue no neaco, e sangue no neaco. Já me escolha, fala, fala-se do milagre. Vai já, me escolha, me escolha. Fala, fala-se do bobo. Vai já, me escolha. Fala, fala-se do milagre. Vai já, me escolha, me escolha. Fala, fala-se do bobo. É sangue no neado. 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 Sangue no neá.
É sangue.